Parfait Onanga Nyanga, bonjour.
Bonjour.
Bonne et heureuse année 2018.
Merci beaucoup Jean-Pierre, à toi-même aussi et à toute la radio Guira FM.
Merci beaucoup. Vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies dans ce pays. Monsieur le représentant spécial, nous entamons une nouvelle année avec un nouveau mandat de la MINUSCA. Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de l'ancien mandat ?
Écoutez, un bilan globalement satisfaisant. C'est le bilan d'un pays qu'on a aidé à mettre les fondations de sa renaissance. Nous sommes dans un effort avec le gouvernement centrafricain pour aider justement à la reconstruction de ce pays, à l'extension de l'autorité de l'État. Et nous pouvons aujourd'hui nous satisfaire de sa présence qui est de plus en plus accrue aujourd'hui. Quasiment sur toutes les préfectures du pays, nous avons 13, trois autres préfets vont bientôt être installés dans la Nanagrébizi, dans la Vakaga et dans la Bamingui-Bangora. Donc nous sommes dans un processus qui avance, difficilement, mais qui avance. Et puis 2017, c'était aussi l'année des grandes opérations de la MINUSCA. Rappelez-vous de Bambari, rappelez-vous d'Ipi, rappelez-vous de Bokaranga et... Nous sommes contents de voir que cette dynamique se poursuit encore dans cette nouvelle année, en 2018, comme on vient de le faire récemment à Paoua.
Alors, qu'est-ce qui a nécessité un nouveau mandat pour la MINUSCA ?
Ce qui nécessite un nouveau mandat à la MINUSCA, c'est d'abord le constat que le travail n'est pas achevé. Hein. Donc, il faut un nouveau mandat. Le travail n'est pas achevé. Et puis, on tire la leçon du passé. Parmi ces leçons, le Conseil de sécurité, sur la base du plaidoyer que le secrétaire général avait lui-même fait lors de sa visite, rappelez-vous, du 24 au 27 octobre de l'année dernière, c'était le constat que, malgré tout ce que nous faisons, il y avait, ici et là, à travers le pays, une vraie recrudescence de la violence, et que donc, c'était le constat aussi que nous travaillions à flux tendu, avec des moyens limités, et qu'il fallait donc faire quelque chose. Le Conseil devait apporter une réponse à ces carences notées, et d'où la décision du Conseil de sécurité d'accroître les capacités de la MINUSCA. Mais le Conseil n'a pas fait que ça. Le Conseil nous a demandé de recentrer, justement, notre action sur ce qui peut être considéré comme les missions prioritaires du maintien de la paix. La protection des populations civiles, évidemment l'appui aux institutions démocratiques de l'État, l'appui surtout à un processus politique, hein, parce que le Conseil de sécurité se rend bien compte qu'une solution militaire qui ne serait pas sous-tendue par un processus politique ne mènerait à rien. Donc le Conseil nous donne à nous désormais d'avoir la primauté du politique et voir comment est-ce qu'on peut essayer d'aider justement les autorités centrafricaines sous leur leadership, aider à un processus politique qui pourrait permettre d'avoir une perspective de sortie de crise durable. Et c'est en cela que nous sommes, nous, partenaires de l'initiative africaine, que nous soutenons, aux côtés du gouvernement, évidemment, pour que, avec, évidemment, l'effort qui doit être mené sur le plan purement opérationnel, parce qu'il est clair que dans l'état actuel des choses, l'État n'étant pas présent sur un grand nombre de localités du pays, où sa présence...
Sur la majeure partie du pays ?
Je ne dirais pas de majeure, disons simplement que sa présence étant encore faible, il faut la renforcer. Et donc, nous avons eu ce mandat du Conseil de sécurité d'être présent aux côtés de l'État. Et il est clair que dans l'état actuel des choses, avec cette myriade de groupes armés, dont certains, je crois, se caractérisent plutôt par des activités criminelles, il est bon et il est important qu'il y ait une présence des forces de sécurité légitimes. Nous le faisons à côté, évidemment, des forces centrafricaines. Donc il est bon que cette présence de l'État, avec sa capacité à projeter la force légitime afin de l'aider justement à accomplir ses missions régaliennes, il était bon que la MINUSCA puisse continuer à aider le pays tant qu'il n'aura pas encore réussi à se doter de ses propres capacités. Donc ce travail, évidemment, nous allons le faire. Et tous les accords, que ce soit les accords locaux ou les accords globaux, auront besoin d'une certaine présence de la force pour précisément faire en sorte que ceux qui adhèrent à ces accords tiennent justement leurs engagements. Donc, un usage de la force, mais il faut soutenir ce processus politique, et c'est en cela que le nouveau mandat, évidemment, se distingue quelque peu la résolution
2301. Voilà. Alors, sur le terrain, les choses se bousculent déjà en début d'année 2018. En Centrafrique, il y a par exemple le projet pilote DDR qui porte ses premiers fruits, avec un premier groupe d'ex-combattants qui viennent d'arriver au terme de leur formation. Il y a l'exemple de Paoua, où pour la première fois depuis la crise en RCA, des soldats de l'armée centrafricaine ont combattu aux côtés de casques bleus contre les éléments des groupes armés. On constate aussi de nouvelles réflexions au siège de l'ONU sur les opérations de maintien de la paix et en Centrafrique, une nouvelle dynamique de la justice. Alors, Au regard de ce qui précède, que pouvez-vous dire des priorités de la MINUSCA en 2018?
Écoutez, nos priorités sont celles définies par le Conseil de sécurité. D'abord, la protection des populations civiles va demeurer au cœur de notre mandat. Nous pensons pouvoir le faire de mieux en mieux, avec non seulement les capacités additionnelles autorisées par le Conseil de sécurité, mais aussi, et il faut s'en réjouir, avec cette coopération plus accrue avec les forces de sécurité intérieure et de défense centrafricaine, comme nous venons de le faire récemment à Paoua, mais nous l'avons fait déjà avant à Bambari, où une centaine de forces de sécurité intérieure avaient été déployées pour accompagner justement l'opération Bekpa que nous avons menée l'année dernière. Donc, nous allons poursuivre cet effort et nous sommes confiants que, travaillant évidemment la main dans la main, nous réussirons justement à élargir l'espace de la légitimité de l'État. Il y a un travail immense qui est en train de se faire sur le plan de la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons une cartographie justement de cette présence de l'État. Il faut se réjouir que, grâce à tous ces efforts, une présence de l'État qui était avant la crise à près de 6 000 agents, qui avaient évidemment tous quitté leur lieu de service dans les différentes préfectures, aujourd'hui se reconstitue. Nous avons à peu près 3 000 de ces agents qui sont déployés, grâce évidemment à cette collaboration effective que nous avons avec le gouvernement. Et donc, progressivement, nous voyons cette avancée dont il faut se féliciter.
Donc, la moitié de l'effectif de 6 000 d'avant?
Exactement. Donc, cela est un progrès en soi. Il faut le consolider. Il faut faire en sorte que, avec le retour, toutes les conditions sur place soient créées, y compris des questions aussi simples que simplement payer les salaires des fonctionnaires. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un dialogue, y compris avec le secteur privé, pour les encourager justement à se réinvestir en dehors de Bangui, et nous espérons que Bambari pourrait être une prochaine étape. Donc, sur tous ces fronts, y compris évidemment celui de la sécurisation de l'assistance humanitaire. Il faut regretter malheureusement que la recrudescence des violences à laquelle nous avons été tous témoins, malheureusement, a entraîné de nombreux réfugiés et déplacés internes. Des chiffres plutôt ahurissants. Ma collègue, Madame Najat Rochdi, en a parlé il y a seulement quelques jours. Nous sommes dans ce travail qui reste évidemment multiforme, multidimensionnel, et nous allons attaquer tous ces fronts ensemble, en même temps, pour espérer justement réussir cet immense pari de consolider la paix en République centrafricaine. Et 2018 est vraiment une année où nous pensons que des transformations profondes pourraient évidemment prendre place.
Est-ce que des dispositions particulières ont été prises justement pour sécuriser ces fonctionnaires qui rentrent, qui reprennent leurs fonctions à l'intérieur du pays, ainsi que les agences humanitaires qui sont opérationnelles sur le terrain?
Écoutez, vous faites bien de mentionner les agences humanitaires. Vous savez vous-même combien l'année 2017 a été extrêmement violente. Nous avons perdu un nombre incroyablement élevé de travailleurs humanitaires, autant que de soldats de la paix. Nous sommes en train d'adapter notre posture, justement, et elle ne sera pas que militaire. Tous ces efforts que nous menons également sur le plan du dialogue visent à créer les conditions et du retour de l'autorité de l'État. D'ailleurs, il faut se féliciter du fait que partout où les préfets sont repartis, eh ben, ils ont été d'une assistance incroyable. Je viens à peine d'assister à une réunion avec mes collègues de Bouar, où là aussi, il y a un processus de paix remarquable mené autour du préfet de Bouar, et qui a permis justement de faire avancer ce dialogue entre les éléments anti-Balaka et les éléments de 3R de Sidiki. Tout ceci évidemment pour mieux encadrer par exemple tout ce phénomène de la transhumance. Donc tout cela nous fait penser que progressivement, dans ce partenariat extrêmement stratégique et utile entre le gouvernement et la MINUSCA, nous gagnerons progressivement de l'espace, et c'est en cela que tous ces efforts doivent conjuguer pour que, encore une fois, on fasse de 2018 une année de réussite dans tous ces domaines.
Revenons sur l'exemple de Paoua. Est-ce que l'exemple de Paoua inaugure, une collaboration plus étroite entre les casques bleus et les FACA?
Elle la renforce simplement. Je le disais tantôt, nous avons déjà commencé à travailler ensemble à Bambari l'année dernière. Nous sommes ensemble aussi à Obo, où nous collaborons étroitement avec une unité de FACA, nouvellement formée par l'IUTM. C'est un processus qui va aller grandissant,
mais peut-on dire, parce que c'est la première fois que les FACA sont aux côtés des casques bleus pour combattre les éléments armés. Est-ce que cela inaugure, quelque chose qui va alors désormais commencer à se produire partout où il y aura d'autres crises auxquelles les casques bleus devront réagir militairement? Donc, est-ce que les FACA seront impliqués sur le terrain aussi?
Écoutez, idéalement, c'est un processus qui commence. Le Conseil de sécurité nous a demandé d'étudier avec le gouvernement centrafricain les modalités de cet appui, justement, à ce déploiement progressif de des FACA. Nous le faisons avec nos collègues également de l'IUTM. C'est un partenariat important. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de vraie stratégie de sortie, hein, parce que nous ne sommes pas ici pour durer éternellement, si les forces centrafricaines elles-mêmes ne sont pas en capacité justement de reprendre leur mission régalienne. Et donc, nous sommes dans cet effort conjointement avec les FACA. Les deux chefs d'état-major échangent constamment. Vous avez certainement assisté à leur visite conjointe à Paoua, ce qui était évidemment une mission importante. Je crois que c'est cela, c'est l'esprit dans lequel nous nous dirigeons et nous espérons que, ma foi, tous les efforts qui sont aujourd'hui en cours, y compris le processus de DDR qui va bientôt, je crois, rentrer dans sa phase réelle, en grandeur nature, on espère que tous ces efforts-là vont contribuer justement à faire baisser le niveau de violence, parce que c'est cela fondamentalement. L'idée, c'est pas nécessairement d'aller faire la guerre. L'idée, c'est de créer évidemment les conditions qui permettront à la légitimité, à la force légitime, d'être en capacité d'apporter un niveau accru de sécurité aux populations centrafricaines qui en ont tant besoin. Et ben, lorsque cela sera fait, par la présence, mais aussi, il faut se féliciter du fait que lorsque la force est suffisamment ferme dans ses opérations, nous avons des résultats. Voilà, nous avons des résultats comme la déclaration que vous avez suivie de Hergé Sayo qui dit désormais demander à ses troupes de désarmer et de rentrer dans le processus établi par le gouvernement. Nous espérons que cet exemple inspirera d'autres et que, ma foi, progressivement, la Centrafrique pourra renouer avec un climat de paix qui est désormais, malheureusement, un souvenir lointain.
Alors, c'est comme si nous étions en train d'actuellement d'assister à un changement de rapport de force entre le gouvernement et la rébellion pour la reconstruction de l'armée, par la reconstruction de l'armée centrafricaine, qui devra, me semble-t-il, et peut-être selon ce que les gens pensent, hein, qui devra elle-même, donc les forces armées centrafricaines, au finish neutraliser les groupes armés en RCA.
Bah, écoutez, d'abord, je crois qu'il n'est pas juste de parler d'un rapport de force entre le gouvernement et les groupes armés, hein, parce que le gouvernement n'est pas en conflit ouvert avec des groupes armés sur quelque partie du territoire que ce soit. Hein. C'est d'abord un fait. Le fait que nous déplorons tous, c'est l'absence, évidemment, de l'autorité de l'État dans plusieurs parties du pays, la nature n'aimant pas le vide, on a assisté à cette présence de facto, voilà, de plusieurs groupes armés dont l'influence, malheureusement, ne peut pas être qualifiée de positive. Donc, autrement dit, avec le retour à l'ordre constitutionnel, aujourd'hui, ce sont les termes utilisés d'ailleurs par le représentant de ce groupe armé, voilà, il n'y a que l'État qui doit avoir la légitimité, le monopole de la force, doit résider avec l'État, et la MINUSCA, qui est donc son partenaire stratégique, évidemment, comme souhaité par le Conseil de sécurité, ce sont seulement ces deux entités qui devraient pouvoir exercer des fonctions régaliennes visant à sécuriser non seulement le territoire, mais les populations centrafricaines, sécuriser la vie et la propriété privée des centrafricains. Ce constat-là, nous le faisons. Malheureusement, l'État n'est pas encore en capacité totale. Et bientôt, j'espère, bientôt, il faut le dire, avec tout ce processus de formation auquel nous assistons, nous voyons une armée centrafricaine qui redore un peu son blason, reprend du poil de la bête. Nous avons également le même effort qui est entrepris dans le cadre, justement, de la réforme du secteur de la sécurité, avec les différents plans nationaux et cadres stratégiques qui ont été adoptés, avec la formation donnée aux gendarmes et aux policiers, le recrutement de nouveaux gendarmes. Donc il y a un effort qui est en cours, qui n'est pas facile, hein, il faut le dire, ce n'est pas facile. Nous sommes ici dans un travail de fond qui va prendre du temps, hein, il faut qu'on se le dise, mais cet effort est en cours et c'est notre espoir que bientôt la Centrafrique, comme tous les autres États, voilà, aura la possibilité d'exprimer l'autorité de l'État, non pas pour aller combattre d'autres centrafricains, évidemment, mais simplement pour affirmer l'autorité de l'État, qui fait que l'État ayant le monopole de la violence légitime, toute autre force qui n'incarnerait pas l'État n'aurait pas, évidemment, de raison de prendre des armes ou de vouloir s'imposer sur le territoire national. Et donc, en ce moment-là, ils feront ces éléments-là qui n'auront pas accepté, parce que ce que nous disons ne se passe pas dans une sorte de vide, se passe dans un contexte où l'État, le gouvernement, le président de la République a demandé à ses frères et sœurs centrafricaines de rentrer dans un processus de dialogue à travers le comité consultatif et de suivi, mais aussi désormais à travers l'initiative africaine. Tous ces acteurs politico-militaires sont invités à rentrer dans la République, à embrasser le dialogue. Et donc, C'est pas un choix, au fond, mmh. entre...
Mais d'embrasser le dialogue, mais entre-temps, l'armée est en train de se redonner du poil de la bête. Hein.
Ce qui est normal. Ce oui. qui est normal. Et nous disons ceci. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que c'est une armée nouvelle qui est en train de se créer. C'est une armée qui va être une armée républicaine, une armée professionnelle, représentative de la diversité de la Centrafrique. C'est le souhait des autorités centrafricaines. J'ai moi-même assisté hier à une cérémonie émouvante au cours de laquelle des anciens combattants de certain nombre de groupes armés qui ont accepté de rentrer dans ce projet pilote, 101 d'entre eux, hier, ont été accueillis dans la famille de l'armée centrafricaine, dans une cérémonie présidée par le président de la République lui-même, au cours de laquelle nos amis et partenaires de l'IOTM, évidemment, étaient ces partenaires qui ont assisté, qui ont accompagné justement la formation de ces nouvelles recrues. Hein, c'est des nouvelles recrues qui rentrent sous le drapeau de la République. C'était une belle cérémonie, extrêmement symboliquement forte, et qui montre que tous ces efforts voilà, concourent à reconstituer les institutions centrafricaines et à dire aux autres que la porte est ouverte. Il ne s'agit pas d'aller au combat contre les centrafricains, c'est leur choix de regagner la République, de rentrer dans la République. Et donc ce choix-là, il est là pour tous les centrafricains. Évidemment, certains vous opposeront des revendications, mais toutes ces revendications elles font l'objet aujourd'hui de la tension particulière de l'Union africaine. Et donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison politique objective qui expliquerait qu'aujourd'hui, en Centrafrique, il y ait des groupes armés, qu'il y ait des acteurs qui continuent de privilégier la violence armée comme moyen d'expression politique.
Donc, est-ce que devant cette nouvelle donne, devant cette situation, devant laquelle les centrafricains, les autorités centrafricaines veillent à ce qu'il y ait une nouvelle armée à travers ce qui s'est passé hier, la cérémonie dont vous venez de faire, à laquelle vous venez de faire allusion, est-ce que cela ne va pas amener la MINUSCA à peut-être revoir sa stratégie, la stratégie qu'elle avait prévue auparavant pour la sécurisation de la Centrafrique ?
Écoutez, mais ce que nous disons, je dois le redire, nous sommes dans des processus lents. Nous sommes dans des processus qui prendront du temps. Ça demande énormément de ressources. Ça demandera un investissement, non pas seulement de l'État, mais de tous les partenaires centrafricains, parce que nous avons tous intérêt à faire en sorte que la Centrafrique recouvre toute sa légitimité et toutes ses capacités le plus rapidement possible. Et cela, évidemment, se fera pas à pas, petit à petit. Et donc, cet effort-là, c'est un effort qui est continu. Et pendant ce temps-là, la MINUSCA, évidemment, adaptera ses stratégies en fonction, évidemment, des exigences du terrain. Et y compris, c'est une stratégie qui est, évidemment, multiforme, comme je le disais tantôt, dans laquelle la force n'est qu'un outil. Le dialogue reste fondamentalement, la recherche d'un consensus par rapport au dialogue reste fondamentalement l'objectif final, parce que nous sommes ici dans la recherche de solutions durables et nous le faisons à notre niveau sur un plan local. L'objectif, ne l'oublions jamais, donné par le Conseil de sécurité, c'est de parvenir à une situation dans laquelle on aura réduit la présence et la menace que constituent justement les groupes armés en République centrafricaine.
Alors, entre-temps, le gouvernement a acheté des armes à la Russie.
Je ne crois pas qu'il les ait achetées. Mais bon, posez vos questions.
A commandé des armes à la Russie.
A reçu des armes de la Russie, c'est plutôt...
Acheté ou reçu des armes de la Russie.
Non, encore une fois, l'information que j'ai ne parle pas d'achat. L'information que nous avons, et qui est d'ailleurs, qui a été soumise au Conseil de sécurité, il faut bien dire que ce processus bilatéral entre la Centrafrique et la Russie est un processus qui a été avalisé par le Conseil de sécurité. Donc, tout est fait sur la base d'un accord du comité des sanctions du Conseil de sécurité sur la question des armes.
Donc, autrement dit, donc pour mieux préciser peut-être, la Centrafrique a reçu ou a des armes de la Russie.
Oui, tout à fait.
Est-ce que cette initiative-là, cette fait de recevoir des armes de la Russie sur le plan bilatéral, donc RCA-Russie, ne gêne pas, en quelque sorte, les activités sécuritaires sur le plan multilatéral qui implique, entre autres, la MINUSCA et l'Union européenne?
Non, mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Nous sommes dans un dialogue ouvert avec le gouvernement centrafricain.
Est-ce que vous attendiez à cette posture, à cette prise d'initiative de la part des autorités centrafricaines?
Mais non, mais ce que tout le monde espérait, c'est que la Centrafrique, d'une manière ou d'une autre, par les voies légales prescrites par le Conseil de sécurité, acquiert des armes. Il n'est pas normal qu'un pays, même s'il est sous embargo, puisse être accompagné par des partenaires que j'ai mentionnés, comme l'IUTM, qui est donc cette mission de l'Union européenne qui a vocation à former les FACA, puisse former un bataillon, deux bataillons, trois bataillons. L'idée, c'est d'aller, évidemment, c'est de doubler cette capacité de formation et que les éléments de ces forces de sécurité et de défense, une fois formés, ne puissent pas acquérir les outils de base pour leur permettre justement d'assumer leurs responsabilités régaliennes. Donc, de ce point de vue, il y a un consensus de la communauté internationale, comme je le disais tantôt, c'est le Conseil de sécurité lui-même qui a donné son aval pour que ces transactions se produisent. Voilà.
Alors, autre sujet, il y a un rapport qui est paru récemment au siège des Nations Unies à New York qui révisite l'action des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. Au regard de ce document et de l'évolution de la situation à RCA, est-ce que la MINUSCA devrait se muer en force d'imposition de la paix dans ce pays?
Non, je crois qu'on est encore loin d'un tel scénario. Non, ce qu'il faut dire, et ce sur quoi le secrétaire général est extrêmement ferme, c'est le constat qu'il fait que l'exercice du maintien de la paix est devenu de plus en plus périlleux. En 2017, comme je vous le disais, c'est au total 64 soldats de la paix qui ont perdu la vie de manière brutale suite à des attaques. Et dans le cas de la MINUSCA, nous avons regretté la perte de 14 de nos collègues. Donc, cela n'est pas normal. Il n'est pas normal que les forces de maintien de la paix qui vont dans des pays qui ont connu les arts de la guerre et qui essaient justement d'assister ces pays à recoudre leur tissu social, à réconcilier justement les parties en conflit, à aider justement à redonner de l'espoir pour faire en sorte que la vie reprenne, que les activités économiques reprennent et que, évidemment, ces pays retrouvent leur légitimité, y compris la légitimité constitutionnelle, comme dans le cadre de la Centrafrique. Il n'est pas normal que les soldats de la paix se retrouvent dans des situations où ils deviennent des cibles. Alors, oui, se pose la question de...
Mais puisque les soldats se retrouvent dans des situations où des fois ils sont des cibles, oui, c'est pourquoi je pose ma question de savoir s'il ne faudrait pas, en ce moment-là, penser déjà si la MINUSCA ne devrait pas se muer
non, une force. Non, il s'agit pas de se muer, il s'agit pour nous de se rendre compte que la réalité a changé. La menace n'est plus la même. Notre drapeau bleu ne nous protège plus. Et donc, à partir de ce moment, c'est une question à laquelle le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, et toutes ses équipes au niveau du siège, ils sont à pied d'œuvre pour réfléchir. Le secrétaire général a lui-même assez clairement évoqué des situations dans lesquelles l'imposition de la paix devrait être mise en œuvre par les États membres dans des situations spécifiques. Mais entre les deux, évidemment, nous parlons, on parle de plus en plus de non plus du chapitre 6, qui, comme vous le savez, c'est le consentement, le chapitre 7 qui est l'usage de la force, peut-être un chapitre 6 et demi, hein, oui, dans lequel nous demanderons aux pays qui mettent à disposition des forces de maintien de la paix d'être préparés à la perspective d'utiliser la force. Et d'ailleurs, dans notre mandat à nous, ben, cette perspective-là, elle est là, mais elle n'était pas envisagée comme si la MINUSCA devenait une force d'imposition de la paix. Hein. Elle était envisagée pour que nous ayons la robustesse nécessaire pour veiller à la protection des populations civiles. Ce qui est important désormais, c'est qu'il nous faut apprendre à nous protéger nous-mêmes. À nous protéger nous-mêmes pour qu'on puisse mieux remplir notre responsabilité primordiale qui est de protéger les populations civiles. Donc ces questions-là, elles sont en train d'être étudiées et nous n'attendons pas évidemment que ce débat soit tranché. Il y a déjà une exigence, le commandant de la force Balaketa a été extrêmement clair avec ses troupes pour dire qu'aujourd'hui, désormais, une vigilance accrue est nécessaire. Nous ne pouvons plus accepter de continuer à perdre des soldats. Il faut que nos soldats soient prêts eux aussi, voilà, s'ils sont attaqués, évidemment, à répondre avec fermeté pour marquer le terrain et éviter que nous soyons ces cibles faciles, sans quoi l'accomplissement de notre propre mandat serait mis en danger.
Monsieur le représentant spécial, nous avons beaucoup parlé de la situation sécuritaire en Centrafrique. Nous allons un peu changer de sujet.
Très bien.
Alors, sur le plan judiciaire, la session criminelle a démarré depuis le mois de janvier et les choses avancent dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la CPS, la Cour pénale spéciale. Alors, quel est en général l'appui que la MINUSCA apporte à la justice centrafricaine?
Écoutez, c'est un appui qui est multiforme. Hein. On le disait tantôt, la crise a profondément affaibli les structures non pas seulement sécuritaires, mais administratives, judiciaires, politiques, économiques. Enfin bref, la crise a eu de profondes conséquences structurelles dans la société centrafricaine. Donc sur le plan de la justice également, hein, c'est un constat que nous faisons. Et d'ailleurs, notre accompagnement aux autorités centrafricaines est fondamentalement technique. Mais dans le cas de la restauration de l'autorité de l'État, nous avons reconstruit des tribunaux, des maisons de justice à travers le pays. Nous accompagnons évidemment les magistrats sur le plan de leur remise à niveau, sur le plan de la formation, sur le plan technique. Nous veillons également à leur accompagnement sur le terrain. Nous veillons justement avec le ministère de la Justice à ce que, à travers cette cartographie à laquelle je faisais allusion, on puisse assez rapidement identifier les lieux où il y a encore des besoins et où, évidemment, il faut renforcer justement cette présence. Donc, notre appui à la justice centrafricaine, il est multiforme. C'est un appui qui s'impose parce que vous savez que l'engagement qui est le nôtre, qui vise évidemment la consolidation de la paix, la restauration de l'autorité de l'État, est fondamentalement, porté par cette ambition qui est centrafricaine, hein, de lutter contre l'impunité. Parce qu'il a été établi, hein, par les centrafricains eux-mêmes que la crise centrafricaine a été une crise cyclique et qui s'est constamment reproduite avec encore plus de violence, simplement parce que les acteurs de cette violence n'avaient jamais fait face à la justice. Donc il faut se féliciter du récent procès, qui était, je crois, un procès exemplaire, qui donne une indication forte, en tout cas, de la détermination des autorités centrafricaines de restaurer, justement, la loi et la justice dans ce pays.
C'est une belle dynamique. Hein.
C'est une dynamique qu'il faut absolument apprécier, et je crois que nous serons, en tout cas, aux côtés des autorités centrafricaines pour sécuriser tous ces processus de justice qui sont extrêmement importants parce que, justement, il n'y aura pas de paix durable dans le pays si les centrafricains, tous les centrafricains, n'ont pas le sentiment qu'ils sont tous égaux devant la justice.
Alors, pour terminer, un mot de l'économie et du social en Centrafrique. À quoi les centrafricains devront s'attendre de l'intervention de la MINUSCA cette année pour le relèvement économique et social de leur pays?
Écoutez, on le dit, et il faut peut-être le rappeler, qu'il n'y a pas de paix sans développement. Mais très certainement, dans l'esprit des centrafricains, c'est d'abord de dire qu'il n'y aura pas de développement sans paix, sans sécurité. Et donc, nous sommes là dans ce nexus entre paix et sécurité qui est extrêmement pertinent, dans lequel nous inscrivons toutes nos actions. Voilà pourquoi la MINUSCA a été et est, continue d'être, un acteur important de la mise en place, d'abord dans l'élaboration et la mise en place de ce que nous appelons le RCPCA, qui est donc cette stratégie nationale de relèvement de la Centrafrique, qui est un document stratégique important et que le président de la République a signé en novembre 2016 à Bruxelles. Ça fait déjà, mon Dieu, on a fait la revue récemment, et il a signé en même temps qu'un autre document important qui est ce qu'on appelle le cas d'engagement mutuel, qui est donc une sorte de chapeau politique à la mise en œuvre justement de ce plan de relèvement. La MINUSCA est un partenaire essentiel de ce processus. Et d'ailleurs, quand je dis la MINUSCA ici, je pense tout de suite à ma collègue, Madame Najat Rochdi, qui est au cœur de ce processus d'accompagnement du relèvement de la Centrafrique à travers la mise en œuvre du RCPCA. Nous sommes aujourd'hui heureux qu'il y ait désormais un secrétaire général national permanent qui est notre partenaire privilégié aux côtés du gouvernement avec tous les partenaires. Donc notre espoir, c'est que l'effort qui est fait sur le plan sécuritaire, y compris dans une ville comme Bangui, ce matin d'ailleurs, je m'étonnais moi-même de l'activité extrêmement intense que l'on observe à Bangui, qui est un signe positif que, véritablement, le pays reprend vie. Et donc, nous voulons faire en sorte que nous sortions de Bangui. D'abord, un, qu'on consolide Bangui, mais que nous sortions de Bangui. Je vous le disais il y a quelques minutes, nous allons nous-mêmes bientôt accompagner les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires, hein, centrafricains, dans d'autres localités où, évidemment, les conditions de sécurité ont été renforcées grâce à notre action conjointe MINUSCA gouvernement, Je pense à Bambari, mais nous pouvons penser à d'autres localités, Berberati. Nous allons donc désormais être aussi les partenaires du secteur privé, parce que, comme vous le savez, il ne peut pas y avoir de développement qui ne soit pas endogène. Le pays ne peut pas toujours compter sur l'appui de ses partenaires, qui est essentiel dans cette phase absolument critique de son développement, mais un pays comme la Centrafrique, qui dispose de potentiels extraordinaires de ressources naturelles, aura évidemment besoin d'un secteur privé fort, dans cela d'ailleurs qu'il est extrêmement important que les conditions de l'activité économique en Centrafrique soient les plus idoines possibles. Nous faisons le plaidoyer pour que ce cadre juridique, par exemple, qui doit protéger le secteur privé, soit renforcé. Les autorités en sont pleinement conscientes. Il faut que ce cadre soit clair pour qu'il puisse non seulement conforter l'activité des hommes d'affaires centrafricains en Centrafrique, mais aussi attirer des capitaux étrangers, parce que les capitaux, ils ne vont nulle part où il n'y a pas la sécurité, et pas seulement la sécurité physique, mais la sécurité juridique. Et donc c'est tout cet effort que nous sommes en train de mener avec le gouvernement centrafricain, et nous sommes absolument confiants que ces efforts-là, vous savez, qui peuvent paraître aujourd'hui peut-être encore pas complètement visibles, mais nous sommes absolument confiants que petit à petit, cela se verra, mais évidemment, cela n'ira pas de soi, et le temps en lui seul ne réglera pas les choses. Cela va demander une détermination et un engagement vraiment à toute épreuve, et nous sommes confiants que dans nos échanges réguliers avec les autorités centrafricaines, en tout cas avec le chef de l'État, nous voyons en lui un leader déterminé qui comprend en tout cas la charge qui est la sienne, qui mesure évidemment les enjeux et les difficultés de relèvement d'un pays qui sort de conflit. Mais voilà, aujourd'hui, nous pensons que le cadre stratégique est en place. Il faut désormais que tout soit mis en place pour qu'il y ait également une gouvernance responsable. Et nous sommes absolument confiants que ce pays se relèvera avec évidemment, en comptant sur lui-même, mais aussi sur l'appui fort et continu justement de ses partenaires.
Parfait, Onanga Anyanga, nous arrivons à la fin de notre entretien. Alors, est-ce que vous avez juste un dernier mot à la population centrafricaine?
Écoutez, mon dernier mot, qui ne sera jamais dernier parce que je reviendrai tout le temps là-dessus, c'est de dire qu'il faut rester confiant. Il faut rester, nous tous, prisonniers de l'espérance. Il faut, pour juger aujourd'hui, penser à hier. Et que aujourd'hui nous aide à nous projeter vers le futur, que nous espérons confiants, que nous espérons solidaires, mais cela ne se fera pas tant que les Centrafricains et les Centrafricaines n'accepteront pas qu'ils sont tous, ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre le taureau par les cornes, regarder le passé qui n'a pas été malheureusement glorieux, malheureusement. Je prends conscience du fait qu'il y a eu des blessures extrêmement profondes, qu'il y a eu une fracture sociétale extrêmement importante, mais que il n'y a pas de défi suffisamment grand qui ne puisse pas être relevé par une communauté nationale qui est déterminée, qui est engagée et qui croit en son potentiel pour se reconstruire. Et donc, moi, c'est vraiment quand, dans ces rencontres avec la jeunesse centrafricaine, j'aime beaucoup citer justement ce Conseil national de la jeunesse qui a à sa tête des jeunes exemplaires qui rêvent d'un futur, mais absolument riche de promesses. Moi, c'est à eux que je pense, et je veux donc leur dire, nous pouvons non pas seulement croire ensemble en une Centrafrique meilleure, et il faudrait qu'elle soit meilleure pour tous ses citoyens, quelle que soit leur identité, parce que la question identitaire est malheureusement fait souvent et malheureusement l'objet de manipulation. Moi, je crois énormément au leadership national, politique. Je crois énormément au leadership associatif. Je crois énormément aussi à la capacité, voilà, des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi, qui ont joué un rôle extrêmement important dans le passé, dans ce pays. Mais il faut aller puiser dans tous ces ressorts pour pouvoir rebondir. Et je crois que la Centrafrique, n'en déplaise évidemment aux Cassandres et à tous ceux qui ne voit que ce qui est difficile, parce que je crois qu'il n'est pas nécessaire de continuer à rabâcher aux Centrafricains que c'est compliqué. Mais c'est extrêmement compliqué. Mais c'est parce que c'est compliqué que c'est une tâche qui est à la hauteur des femmes et des hommes déterminés. Ce pays se relèvera et aujourd'hui, il bénéficie d'un contexte extrêmement favorable. Il a des partenaires qui l'accompagnent Et donc, ensemble, nous pensons ce pari absolument à la mesure de nos efforts.
Parfait, Onanga Nyanga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.